débats. Reportages plateau radio ou sont glanés sur les ondes des radios libres pour faire écho aux luttes en tout genre. Histoire, féminisme, frontières, autodéfense numérique, Marseille en lutte, archives LGBTQIA+. C'est tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4. Bonjour et bienvenue dans Libre Débat. Pour ce mois de novembre, je vous propose d'écouter une série d'émissions en 3 volets sur le coût du smartphone. C'est une série qui a été réalisée par des camarades de Radio Campus Grenoble. Et là, aujourd'hui, c'est le 3e et dernier volet de cette série. Et ça parle de la dématérialisation d'Internet. Ça dure 1 heure. Bonne écoute.
Je me lève le matin, je scrolle. Je scrolle chaque fois que j'ai du temps libre, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de temps libre. Et je scrolle le soir. Je scrolle tout le temps.
Le coût des smartphones. Une émission critique du numérique.
Complètement accro car ces applis sont conçues à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction.
Le coût des smartphones.
Si vous commencez à utiliser un smartphone, vous allez en avoir de plus en plus besoin. C'est pour ça que la meilleure manière de ne pas en avoir, c'est de ne pas commencer.
Une émission critique du numérique.
Dans 50 mètres, prenez la deuxième à droite. Prenez la deuxième à droite. Non. Stop. T'es con ou quoi? J'ai dit la deuxième. Bon. Calcul en cours.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, bienvenue dans ce 3e volet du coût des smartphones avec, sur l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble 90.8. Alors, le coût des smartphones, c'est une série d'émissions de radio pour critiquer le numérique dans ses différentes dimensions, à la fois sociale, environnementale, coloniale et internationale. Et le smartphone et le numérique sont devenus assez centraux dans la société, mais on est peu informé sur ce qu'ils sont vraiment. Et dans ces émissions, on parle du coût humain et environnemental de leur existence, à la fois matériel et logiciel. On aborde les questions de contrôle et d'asservissement au capitalisme.
Et donc, dans ce 3e volet, on va aborder le sujet de la fameuse dématérialisation d'Internet. Alors, la dématérialisation, c'est super écolo. On sauve des arbres en envoyant des mails. En septembre dernier, par exemple, un mail de France Travail annonçait
« Zéro papier, une démarche éco-responsable ».
Alors, en activant la dématérialisation de nos courriers, on aurait la possibilité, entre autres, de contribuer au développement durable. Bon, sauf que derrière cette dématérialisation se cache une réalité très matérielle.
On va donc, dans cette émission, parler des réalités matérielles du numérique. Numérique qui est maintenant très lié au smartphone ou ordinateur de poche, parce qu'ils sont en connexion quasi permanente. En 2020, 73% des connexions Internet se font à partir d'un smartphone. Et en 2024, 96,5% des utilisateuristes mondiaux se connectent majoritairement via leur smartphone.
La plupart des applications ont besoin d'une connexion pour fonctionner. Leurs contenus sont distants. C'est le cas même pour des applications simples comme un agenda. Son contenu va être enregistré en ligne, à distance. Comme ça, si on perd son téléphone, on a toujours accès à son agenda. C'est magique, ou pas. En tout cas, la quantité de données qui transitent par Internet a été démultipliée en quelques années. Et l'utilisation des smartphones en est en très grande partie responsable.
Mais c'est quoi Internet en fait et comment ça fonctionne ? C'est ce qu'on va voir pour expliquer toute la matérialité d'Internet avant d'aborder la question de la consommation des matières et énergies du secteur numérique. Et pour finir, on va expliquer comment le numérique n'est pas séparable du capitalisme et du colonialisme. Alors voilà, on commence par expliquer ce qu'est Internet. Alors déjà, c'est quoi un réseau informatique ?
Alors ce qu'on appelle réseau informatique, c'est quand des ordinateurs, des smartphones, des objets connectés, etc., sont connectés entre eux et s'échangent des informations. Ce qu'on appelle Internet, c'est un réseau informatique à l'échelle mondiale.
Mais on peut avoir un réseau local. Par exemple, pour connecter une imprimante à plusieurs ordinateurs en même temps. Comme ça, il n'y a pas besoin de brancher et débrancher chaque ordinateur directement à l'imprimante. Les ordinateurs et l'imprimante sont reliés par câble à une sorte de multiprise informatique et les données vont pouvoir transiter entre les différents ordinateurs et l'imprimante. Ou alors le réseau peut aussi fonctionner avec des ondes Wi-Fi.
Donc pour Internet, c'est le même principe, mais à plus grande échelle. Notre réseau local va être connecté au réseau extérieur et les données vont circuler à travers le monde sous forme d'électricité dans des câbles Internet, sous forme de lumière dans les câbles de fibre optique ou sous forme d'ondes électromagnétiques avec le Wi-Fi et la 3G, 4G et 5G.
Mais concrètement, comment fonctionne ce réseau ?
Pour être connecté au réseau mondial, on loue les services d'un fournisseur d'accès Internet, qu'on appelle aussi FAI. Alors c'est le plus souvent des grosses entreprises comme Orange, Bouygues, SFR, Free, mais ça peut aussi être des FAI associatifs et militants comme Résine à Grenoble. Le fournisseur d'accès peut nous donner une box qui servira d'intermédiaire entre nos ordinateurs et son super ordinateur à lui qu'on appelle serveur. On y reviendra tout à l'heure. C'est à partir de ce super ordinateur que nous sommes reliés à l'Internet mondial. Et le smartphone, lui, fonctionne un peu comme une box. Et de la même manière, toutes les informations de connexion transitent par le fournisseur d'accès, qu'on appelle couramment opérateur dans le cas de la téléphonie.
Alors le réseau mondial Internet fait transiter les informations par des câbles. Avec le Wi-Fi ou les réseaux de téléphonie mobile, on a un peu l'impression qu'il n'y a plus trop de câbles, mais en réalité, il y a des tonnes de câbles électriques ou de fibres optiques qui vont partout autour de la planète et qui traversent les océans et les continents, qui se ramifient et passent par des intersections. Donc maintenant, on a une image de ce qu'est un peu un réseau informatique. Et sachant qu'il y a aussi la perspective de la 5G, qui ferait qu'il y aurait toute une partie des informations qui passeraient aussi par des ondes, mais ça implique d'envoyer des dizaines de milliers de satellites en orbite autour de la Terre, donc ça reste aussi très très matériel, même si c'est des ondes.
Alors, ce qu'on n'a pas dit dans ce réseau, c'est pour que tout ça fonctionne et que les données arrivent là où on veut, il nous faut une adresse. C'est comme le courrier postal, en fait. Si on ne met pas d'adresse, ça ne va pas marcher, on ne va pas recevoir nos lettres. Ben là, c'est pareil, sur Internet, cette adresse, c'est ce qu'on va appeler l'adresse IP, Internet Protocol. Et tous les objets connectés à l'Internet mondial ont une adresse IP qui leur est associée. Par exemple, dans un appart, l'adresse IP, c'est celle de la box Internet. Donc, tous les ordi et les objets connectés à cette box ont une même adresse IP.
Une adresse IP, c'est une suite de chiffres, alors c'est pas facile à la retenir. Et ces adresses IP, elles peuvent être donc associées à des noms. Par exemple, quand je me connecte au site campusgrenoble.org, en réalité, je me connecte à l'adresse IP 195.154.137.201.
Donc, quand j'ouvre mon navigateur Internet et que je tape une adresse pour accéder à un podcast de Radio Campus Grenoble, une demande est envoyée sous forme électrique, puis lumineuse par un chemin de câble jusqu'à l'ordinateur où est stocké le site de Radio Campus et qui se trouve à Paris. Et en réponse, ce super ordinateur va renvoyer vers mon adresse IP le podcast que je veux écouter par un chemin de câble jusqu'à ma box, puis jusqu'à mon ordinateur.
Et alors, pour avoir un résumé, on écoute un extrait de la conférence gesticulée de Lunar qui s'appelle « Informatique et... » ou liberté, point d'interrogation. Non, informatique et liberté, point d'interrogation. Et il y fait une analogie avec le réseau routier.
Le réseau routier, il est fait de cette myriade de, à un moment donné, il y a un certain nombre d'entités, quoi. Il y a plein de communes qui gèrent leur petit bout de route, des départements, des régions... qui reste de trucs nationaux, maintenant il y a des métropoles. Bref, et en fait, à un moment donné, toutes ces organisations, elles gèrent leur bout du réseau routier et en se demandant, bah, en fait, okay, qui c'est qui paye quand on fait le rond-point pour connecter les deux régions, quoi. Internet, c'est un réseau de communication électronique. Et ça fonctionne un peu comme ça aussi. On a plein, à un moment donné, de gestionnaires différents qui sont responsables de chacun leur petit bout de réseau. Et on a des points d'interconnexion, comme ça, des grands carrefours où ces différents réseaux se connectent. Et voilà, on n'a juste pas des voitures qui vont sur du goudron, quoi. On a de l'information qui circule sous forme de lumière dans des fibres optiques, sous forme d'électricité dans des fils de cuivre, sous forme d'ondes électromagnétiques pour le Wi-Fi ou le téléphone mobile, quoi. Et après, les données elles-mêmes, quand elles traversent Internet, ces informations, c'est pas si différent de la voiture. Elles vont essayer, à chaque croisement, de regarder le panneau et de prendre ce qui rapproche le plus de la destination, quoi. Puis en général, à la fin, ça finit par arriver.
Alors, quand on parle d'Internet et des données sur Internet, on entend souvent parler de data center. Mais en fait, c'est quoi un data center ?
Alors, un data center, c'est un espace dans lequel tournent en continu des milliers d'ordinateurs super puissants.
Mais à quoi ils servent, ces ordinateurs ?
Wow, ils servent à plein de choses différentes. Alors, d'une part, il y a des serveurs, comme on l'a évoqué avant. Et des serveurs, c'est des ordinateurs auxquels on se connecte pour obtenir des services, comme son nom l'indique. Et des services, ça peut être plein de choses différentes. Avoir accès, consulter un site web, avoir accès à une boîte mail, regarder un film en ligne, écouter une émission de radio, faire un sondage pour trouver une date de réunion, utiliser un moteur de recherche, tout ça, c'est des services qui peuvent être proposés par des serveurs. Et sur ces ordinateurs, il y a donc tout un tas de programmes et de logiciels qui tournent et que, d'une certaine manière, on utilise à distance. Ces ordinateurs, ils vont aussi servir à stocker des données. Donc des données dont on a tout à fait conscience, comme nos emails, nos sauvegardes en ligne, les films qu'on veut voir en ligne, le contenu de sites web en général. Mais il y a aussi des logiciels, mais il y a aussi tout un tas de trucs dont on a un peu, qui nous font un peu moins plaisir et dont on a moins conscience. Par exemple, il y a des publicités ou des petits logiciels qui permettent de savoir sur quel lien on a cliqué, sur quelle image on s'est attardé, en combien de temps on a lu un article, quel message on a liké ou quel site on a visité. Mais aussi à quelle antenne s'est connecté notre téléphone à chaque seconde où il se connecte et quelles sont nos données GPS, si on a des données GPS.
Et toutes ces données, elles doivent être accessibles en continu à chaque moment où l'utilisateur, l'utilisatrice peut en avoir besoin. Bah, par exemple, tu veux pouvoir lire tes mails ou consulter un site ou un média social à n'importe quelle heure. Et les utilisateurs, c'est toi, c'est moi, c'est vous, mais c'est aussi des entreprises qui stockent leurs données en ligne. Et c'est aussi des serveurs qui s'échangent des informations. Donc les data centers, c'est des centaines de millions d'ordinateurs qui tournent en continu.
Mais ce nombre d'ordinateurs qui tournent en continu, tu peux le multiplier encore. Parce que des fois, il peut y avoir des problèmes. Et si ça plante, bah, il faut des sauvegardes, parce que t'aimerais pas perdre tes mails ou que ta banque perde les infos sur ton compte en banque. Il y a donc d'autres millions d'ordinateurs qui font des copies sur des disques durs pour sauvegarder les informations. Et en plus de ça, pour répondre aux exigences de vitesse de connexion, il y a une démultiplication du nombre de serveurs qui contiennent la même chose, mais à des emplacements géographiques différents. D'une part, ça permet d'être plus nombreuses à se connecter en même temps, et d'autre part, ça permet d'être plus proche, le plus proche possible du serveur auquel on se connecte. Ça permet par exemple que quelqu'un qui est à Hambourg se connecte aux infos stockées à Berlin plutôt que se connecter à celles qui sont à New York. Bah oui, parce que ça prend un peu de temps quand même de faire circuler les informations par les câbles. Et bon, tout ça, c'est encore plus d'ordinateurs regroupés dans des data centers. Et c'est pour permettre de gagner quelques secondes, quelques millisecondes ou quelques minutes selon la quantité de données déplacées.
Et il y a de plus en plus de data centers, parce qu'il y a de plus en plus d'objets connectés, de plus en plus de communications, de plus en plus de musique en ligne ou de vidéos. Les vidéos, actuellement, c'est environ 60% du flux de données total. Mais les besoins sont aussi démultipliés par l'intelligence artificielle qui nécessite d'énormes espaces de stockage et d'énormes puissances de calcul.
Les data centers consomment à eux seuls 2% de l'électricité mondiale. Réduire leur consommation est un enjeu majeur pour le développement du secteur du numérique. d'autant que l'on constate une explosion très impressionnante du volume de données échangées sur le web. Un chiffre qui ne va faire qu'augmenter car le volume des données transportées par le net pourrait être multiplié par 40 à 50 d'ici 2020. Comme les équipements électroniques dissipent principalement leur énergie sous forme de chaleur, le besoin en système de refroidissement est extrêmement important, puisque les appareils électroniques génèrent beaucoup de chaleur et deviennent défectueux lorsque la température s'élève au-delà d'une certaine limite. Presque 50% de l'énergie électrique consommée dans un data center est utilisée pour le fonctionnement des groupes froids et des climatiseurs.
Alors, comme on vient de l'entendre dans cette pub, qui date un peu, elle date de 2018, les data centers utilisent beaucoup d'eau et beaucoup d'électricité, essentiellement pour se refroidir, et aussi donc pour des systèmes de refroidissement, de ventilation et des climatiseurs. Et pour le moment, beaucoup de l'électricité qui est utilisée pour ça, elle n'est pas décarbonée, et elle provient de centrales à charbon et de centrales à gaz. Alors, dans ce formidable objectif de décarbonation, les data centers veulent utiliser le nucléaire. Donc, il y a des gens qui vont installer des mini-centrales modulaires, qui viennent à l'origine de l'armement nucléaire et qui sont installées dans des sous-marins. Ou alors, ils installent des data centers tout proches de centrales. Ou même, il y en a qui vont relancer de vieilles centrales qui ont été arrêtées, comme le réacteur fonctionnel de Three Mile Island. Qui, oui, c'est, vous avez bien entendu, c'est l'usine nucléaire qui a pété en 79, un des premiers énormes accidents nucléaires. Et si j'ai bien compris, ces centrales nucléaires, elles seraient gérées, quoi, elles seraient aux mains d'entreprises privées comme Microsoft ou Amazon. Donc, ils veulent utiliser des centrales nucléaires. Et donc, comment ça fonctionne une centrale nucléaire ? Ça veut dire qu'ils vont provoquer des réactions nucléaires pour produire énormément de chaleur, pour faire tourner des turbines, pour produire de l'électricité, pour refroidir des data centers. Logique ?
Très, très logique. On tient le bon cap, là.
Ouais.
Et bien, sur cette logique, on va s'écouter un petit morceau de musique pour avoir le temps de bien réfléchir à ce qui vient d'être dit. Et on s'écoute Stromae, Carmen.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme.
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme.
Un jour t'achètes, un jour tu aimes. Un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant, on crèvera tous comme des rats.
Hey, 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 hey.
Et alors voilà, comme on l'a commencé à l'évoquer avant, une des autres grosses conséquences environnementales des data centers, c'est la consommation d'eau.
Alors, j'ai pris les chiffres fournis par les entreprises elles-mêmes, Amazon, Google et Microsoft. Pour refroidir leurs bâtiments, elles ont eu besoin l'an dernier de 25 milliards de litres. Ça représente la consommation annuelle en eau d'une ville comme Toulouse, où c'est ce qu'il faudrait pour assurer un minimum vital, c'est-à-dire 20 litres d'eau par jour, à 3,5 millions d'humains, un pays comme l'Érythrée.
Voilà, donc c'est assez catastrophique la consommation d'eau par les data centers. Et donc ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de Virginie Garin au micro de RTL.
Et en fait, ça, c'est juste la consommation de leur utilisation. Ça ne prend pas en compte les moyens nécessaires pour fabriquer ces immenses hangars et ces millions d'ordinateurs super puissants. Ça ne prend pas non plus en compte tout un tas de trucs nécessaires à l'infrastructure, comme par exemple d'immenses systèmes de batteries pour éviter des coupures de courant qui pourraient faire perdre des milliards en quelques secondes. Et puis ça ne prend pas non plus en compte la consommation électrique et de matières premières de tous les objets connectés et de tous les réseaux de connexion.
Oui, parce que tout ça, c'est des quantités d'énergie et de matières premières qui sont énormes, surtout si on le rapporte au nombre de ces objets.
Alors on va faire un petit quiz.
Mais oui.
Alors quelle proportion de la population mondiale possède au moins un téléphone actuellement?
Je connais les réponses.
Bah tu peux les dire.
70%.
Et combien de smartphones ont été fabriqués dans le monde depuis 2007?
Plus de 10 millions. Non.
Non.
Plus de 10 milliards.
Oui. En France, tous les combien de temps on change de smartphone en moyenne?
On change en moyenne de smartphone tous les 2 ans, alors que dans 88% des cas, l'ancien est encore utilisable.
Combien de kilos de roche faut-il pour construire un smartphone?
12 kilos. Il faut 12 kilos de roche pour fabriquer un smartphone. En fait, il faut autant de roche car il y a besoin de plein de minerais, parce que dans un smartphone, il y a au moins 52 métaux et minéraux différents.
Donc on arrive à 12 kilos de roche pour un objet qui doit peser 200 grammes à la fin, je pense, environ. Donc on voit bien que le secteur numérique est un énorme consommateur d'énergie, de minerais, et que ça va faire qu'augmenter avec les années. À titre d'exemple, si on considérait qu'Internet et le numérique étaient un pays, il représenterait le 3e pays consommateur d'électricité derrière les États-Unis et la Chine. Alors on va s'écouter un petit extrait d'une émission qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on fait ?» qui est sur le Move.
Milliards d'appareils étaient en circulation en 2022 et selon l'ADEME, l'agence de la transition écologique, un smartphone fait 4 fois le tour du monde avant d'atterrir entre nos mains.
Il a plus voyagé que nous.
C'est ça. Il voyage beaucoup plus que nous. Alors le souci, ce sont les impacts énormes liés à sa production, notamment donc l'extraction des minerais que l'on retrouve sous forme de métaux dans les téléphones et qui a des impacts sur la biodiversité dû au rejet toxique dans l'environnement, les sols et donc dans l'eau. À votre avis, dans un téléphone, il y a combien de matériaux différents?
10.
Oh là, bien plus.
100?
Un petit peu moins.
80?
70. Il y a 70 matériaux différents dans un smartphone, comme le plastique, le verre, les métaux précieux ou encore les métaux technologiques.
T'as coupé. C'est fait exprès. 4 fois le tour de la planète, alors peut-être ça représente pas, enfin quelque chose de pas très concret. En fait, ça veut dire 160 000 kilomètres. Alors comment c'est possible? Eh bien justement parce que l'extraction et la transformation des matières premières nécessaires à la construction, elle est réalisée en Asie du Sud-Est, en Australie, en Afrique centrale et en Amérique du Sud. Ensuite, il y a la fabrication des principaux composants qui se déroulent, eux, entre l'Asie, les États-Unis et l'Europe. Puis ensuite, il y a l'assemblage de ces composants qui, eux, sont effectués plutôt en Asie du Sud-Est. Et enfin, les smartphones sont livrés en avion aux distributeurs partout dans le monde.
Waouh, mais c'est énorme.
C'est énorme, ouais.
Ben, le concept de dématérialisation... Le concept de dématérialisation cache donc des réalités très très matérielles. Mais en plus de ces questions des maxi-ordinateurs et des outils pour les faire communiquer, il y a aussi la question du travail que cela génère. Et quand je dis travail, en fait, il faut plutôt entendre exploitation. Mais ça aussi, c'est des réalités très matérielles. Car en fait, derrière la dématérialisation, il y a du travail humain qui est profondément ancré dans une organisation capitaliste, mais aussi dans une organisation coloniale ou néocoloniale. Cette réalité de l'exploitation, on la retrouve à tous les niveaux du numérique.
Pour la fabrication et la gestion des objets connectés d'Internet, ordinateurs, smartphones, téléphones, montres, frigos, volets roulants, chauffage, serveurs, data centers, câbles réseau, etc. Pour tout ça, il y a des gens qui travaillent pour extraire des minerais, pour les transformer, pour fabriquer les objets, pour les déplacer et ensuite pour gérer la masse de déchets produits. D'ailleurs, sur le sujet de l'extraction minière, on vous invite à écouter le premier volet de notre émission, Le coût des smartphones, l'extraction minière en République démocratique du Congo.
Et par ailleurs, il y a aussi de nombreux travailleuses qui produisent et testent les applications qui vont entraîner les IA. Il y a des gens qui modèrent des articles et des posts sur les médias sociaux. Il y a des gens qui corrigent les erreurs dans les bases de données, etc. Et tous ces travailleuses, on les appelle les travailleuses du clic et on parle de numérique labor. Mais tout ça, on va le développer dans une future émission. Et on va maintenant plus vous présenter deux exemples de conditions de travail et de lutte de travailleurs et travailleuses du clic.
Alors, on va parler de Foxconn. Foxconn, c'est une entreprise géante taïwanaise qui fabrique des iPhones et des smartphones. Et elle représentait en 2012 45% de la production mondiale de smartphones. Cette entreprise, elle a 1,3 million de salariés, dont 1 million de salariés qui travaillent en Chine. Et dans la ville chinoise de Shenzhen, cette entreprise, elle détient une usine de 300 000 personnes qui a été rendue tristement célèbre en 2010 par des vagues de suicides de travailleurs et de travailleuses migrantes exploitées et surmenées. Alors, ce sont au moins 24 personnes qui se sont jetées du toit de l'usine cette année-là, mais les chiffres ont l'air d'être largement sous-estimés. Et en guise de réponse, l'entreprise a ajouté des filets pour que les gens ne se jettent plus du toit. Et pendant des années, il y a eu de grosses luttes contre les conditions de travail chez Foxconn. Il y a eu des grèves, des manifs, des blocages, des sabotages, etc.
Je peux vous lire un poème qui a été écrit par un des employés de Foxconn. Une vis tombe par terre. Dans cette nuit noire, des heures supplémentaires, plongeon vertical, on l'entend à peine atterrir. Personne ne le remarquera, tout comme la dernière fois. Une nuit comme celle-ci, quand quelqu'un s'est jeté dans le vide. Si vous ne connaissez pas Foxconn, vous connaissez Foxconn, puisque dans les clients de Foxconn, on a Apple, BlackBerry, Google, Huawei, Motorola, Nokia, Sony, bref, tous les fabricants de mobiles. Le poème que je vous ai lu, qui a été écrit par un employé qui s'appelle Xulidi, il l'a écrit en 2014 et il s'est suicidé lui-même quelques années après avoir écrit ce poème.
Et on peut retrouver d'autres poèmes de Xulizi et plus d'informations sur Foxconn dans l'ouvrage « La machine est ton seigneur et ton maître » édité chez Agon en 2015.
Le deuxième exemple concerne Samsung. En fait, en juin, juillet et août dernier, en Corée du Sud, Samsung était confronté à plusieurs jours de grève de ses salariés qui demandaient une hausse des salaires et plus de journées de congés. Et les négociations avec les patrons n'ont rien donné pour le moment, mais c'est plus de 6000 salariés qui ont participé à cette grève, ce qui est un événement rare dans une entreprise connue pour sa répression contre les syndicats. En effet, en 2019, il y a deux dirigeants de Samsung qui ont été condamnés pour des activités antisyndicales. En septembre dernier, en Inde, il y a plus de 1000 salariés de Samsung qui ont organisé un piquet de grève et manifesté, réclamant des meilleurs salaires et la reconnaissance d'un syndicat dans leur usine. Et il y a plus de 600 qui ont été arrêtés par la police.
Donc voilà, ça c'est deux exemples de lutte et de conditions de travail des personnes sur la fabrication du numérique. Enfin des...
La fabrication matérielle des objets numériques.
Alors on parle de plus en plus de colonialisme numérique. Le colonialisme numérique fait référence à l'utilisation de technologies numériques dans le but de dominer politiquement, économiquement et socialement une autre nation ou un autre territoire. Le colonialisme numérique il se développe sur différents plans et de différentes manières.
Alors, le premier plan du colonialisme numérique, c'est celui de l'exploitation de la main-d'œuvre. Parce qu'en effet, ce sont en général, en grande majorité, des entreprises occidentales et riches qui détiennent la plupart des infrastructures. Les data centers, les programmes, les compagnies qui développent les réseaux, les fournisseurs d'accès, etc. Et ces entreprises, elles exploitent des travailleuses des pays dits du sud global.
Alors, on utilise le terme sud global, c'est pour nommer un ensemble de pays qui ne sont pas nécessairement au sud, mais on les a nommés pays du sud par opposition aux pays occidentaux ou du nord. En gros, le nord, c'est États-Unis, Canada, Europe, Russie, Japon et Australie.
Alors, ces entreprises, essentiellement du nord, exploitent des travailleuses des pays du sud global et elles profitent de conditions de travail super dures, de cadences infernales et de salaires misérables pour augmenter leurs marges dans tous les corps de métiers les plus pénibles. Extraction minière, entraînement de logiciels, call center, modération de contenu, etc. Et l'enrichissement de ces entreprises du monde numérique et des pays occidentaux passe aussi par le pillage des ressources avec l'extraction minière. Mais avec le numérique, il y a des ressources d'un autre type qui sont les données. Avec ça, le colonialisme numérique a une dimension de contrôle social et politique. En fait, grâce à leur monopole sur les infrastructures, les entreprises occidentales enregistrent et analysent les données des utilisateurs des pays du sud global. Mais comme par ailleurs, elles détiennent aussi les outils d'information et les médias sociaux, elles peuvent orienter les opinions en contrôlant et en manipulant les informations. Et cela représente une porte ouverte aussi au contrôle politique. Et cette porte ouverte au contrôle politique, elle est d'autant plus forte que les données, elles peuvent être vendues ou partagées avec la police, l'armée, les gouvernements, les personnes qui se présentent à des élections, etc.
Et ce colonialisme numérique, il s'étend aussi au domaine de l'éducation. Les grandes entreprises du numérique, elles proposent du matériel aux écoles et des formations gratuites. Mais ce sont des formations à l'utilisation de logiciels dont elles sont propriétaires ou du matériel qui tourne avec ces logiciels. Donc ces dons, entre guillemets, hein, servent en fait à étendre leur monopole, à forcer le plus de monde possible à utiliser leurs outils. Ça sert aussi à contrer les mouvements pour les logiciels libres qui se développent parfois comme alternative à la dépendance aux entreprises occidentales.
Et du coup, ça revient aussi au point d'avant. En forçant les gens à utiliser leurs outils, ils peuvent utiliser leurs données, mais aussi ils se fabriquent de la main-d'œuvre. Parce que derrière, les personnes, elles peuvent être exploitées à partir de ces outils-là. Et enfin, un des derniers aspects du colonialisme numérique, c'est l'utilisation des peuples du sud global comme cobayes par les entreprises occidentales, notamment pour des technologies de contrôle. Il y a plusieurs exemples, mais par exemple, il y a des technologies de prise d'empreintes digitales qui ont été testées en Inde et en Afrique du Sud. Mais il y a aussi des outils de gestion de données et de statistiques pour des appareils de surveillance étatique qui ont été testés aux Philippines. Et ces « innovations » entre guillemets ont finalement été par la suite employées contre les activistes et contestataires aux États-Unis. Donc en fait, c'est des technologies qui ont été testées et développées ailleurs pour ensuite être développées et qui peuvent être vendues dans plein d'États. Microsoft et ses partenaires suggèrent maintenant que les Africains-Africaines continuent d'être les cobayes de leurs expérimentations sur les technologies numériques, par exemple dans les prisons.
Et on va écouter Brad Smith président de Microsoft, qui explique en 2023 ses plans d'investissement en Afrique.
Alors oui, il y a un retour économique lorsque nous faisons un investissement direct. Mais ce que nous faisons également, c'est construire un marché. Construire un marché pour les services cloud, construire un marché pour les données, construire un marché pour le genre de choses que nous proposons. Nous avons actuellement de grands centres de données en Afrique du Sud. Ils desservent tous les continents. Nous devrons nous étendre pour avoir des centres de données dans davantage de régions d'Afrique. Et voici comment vous construisez un marché. C'est la façon dont vous développez une économie. Vous créez des opportunités pour 1,3 milliard de personnes qui, comme vous le savez, plus de la moitié en moins de 20 ans.
Erreur critique.
Et voilà, super ce petit plan de Microsoft. Mais dans la même veine que Microsoft, il y a aussi Facebook avec son programme, enfin son système d'exploitation, même Free Basics, qui permet d'avoir un Internet gratuit. Alors gratuit toujours avec ses guillemets, parce que rien n'est gratuit vu qu'ils récoltent les données. Et en fait, Facebook, ils sont présents actuellement dans 32 pays d'Afrique pour renouveler leur clientèle, parce qu'en fait, ils étaient en perte de vitesse aux États-Unis, en Europe. Facebook, ça commence à être sacrément ringard. Et du coup, pour effectivement accéder à un nouveau marché, ils sont allés en Afrique et ils ont proposé Free Basics, du coup, qui permet d'avoir d'être sur Internet. Du coup, Internet et Facebook, ça devient la même chose dans plein de pays. C'est utilisable sur des smartphones rudimentaires, ce qui tombe bien parce que plein de personnes n'ont pas les smartphones dernier cri comme en Occident, mais ont des vieux smartphones. Et du coup, ça leur permet de récolter une masse énorme de données.
Et maintenant, on va faire une autre petite pause musicale, une découverte grâce à France Inter. c'est un chanteur qui s'appelle Claude et du coup, son morceau s'appelle Ode à Mark en faisant référence à Mark Zuckerberg.
Mon attention, c'est ce que tu demandes, et je te la donnerai, car je ne te refuse rien, non. Mon attention, greffée à tes pixels, me la rendrais-tu si je te le demande? Marc, tu me connais par cœur, mais tu en as des milliards comme moi, et comme moi ils t'aiment. Dis-moi, dis-moi, fais-je la différence? Ou est-ce qu'on se ressemble tous? Est-ce qu'on t'indiffère? Penche-toi par-dessus mon cerveau et choisis ce qui te plaît, avec ou sans ma permission. Mais pauvre de moi, tu m'as volé mes secrets. Est-ce que je t'ennuie déjà? C'est si dur de te surprendre. Marc, tu me connais par cœur, mais tu en as des milliards comme moi, et comme moi ils t'aiment. Dis-moi, dis-moi, fais-je la différence? Ou est-ce qu'on se ressemble tous? Est-ce qu'on t'indiffère? Marc, tu me connais par cœur, mais tu en as des milliards comme moi, et comme moi ils t'aiment. Dis-moi, dis-moi, fais-je la différence? Ou est-ce qu'on se ressemble tous? Est-ce qu'on t'indiffère? We'll be right back.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Grenoble 90.8. C'est l'horaire de l'apérophonie. Et aujourd'hui, dans l'apérophonie, c'est le troisième volet du coup des smartphones, émission critique du numérique. Et on vient d'écouter un morceau de Claude qui s'appelle Oda Mark.
Et du coup, Mark Zuckerberg, c'est le patron de Facebook, pour les gens qui avaient oublié. Des fois, comme on parle beaucoup d'Elon Musk, on l'oublie. Alors, on va retourner un peu sur cette histoire de matérialité, de la dématérialisation. Et là, je vais parler un peu du câble, des câbles qui passent sous les océans. Enfin, oui.
Les câbles qui transportent les données informatiques et les informations d'Internet et qui sont dans l'eau des océans.
Ouais, voilà. Qui traversent vraiment les océans, mais ils font des, enfin, il y a des câbles qui font des milliers de kilomètres tout le long des océans, etc. Et du coup, ces câbles, c'est quand même tout un concept pour les poser. Il faut des énormes bateaux avec des énormes bobines, quoi. Ouais, qui déroulent ces câbles et qui vont aller très très loin se poser au fond des océans. Et en fait, ces dernières années, jusque-là, c'était des câbles des États, quoi. Enfin, en tout cas. Mais ces dernières années, c'est des câbles privés qui ont été, qui ont commencé à être mis en place, et notamment par Google et Facebook. Et ça, ça pose quand même une grosse question. Enfin, en tout cas, c'est un problème parce que, en fait, jusque-là, Internet, il n'y a pas il y a une espèce de neutralité, on va dire, d'Internet, même si c'est un peu un gros mot et tout ça. Mais le fait que ça appartienne là à des compagnies privées qui ont elles-mêmes des serveurs, en fait, ça pourrait dire que, si on prend un exemple, Google, il pourrait prioriser l'accès aux données qui sont présentes sur ses propres serveurs. C'est-à-dire que dans ces câbles-là, il réserverait une plus large bande passante à ces données à lui, quoi, à ces données qui sont sur un serveur. Si on fait un peu l'analogie qu'on a vue tout à l'heure avec le réseau routier, ça voudrait dire que dans les câbles de Google, il pourrait y avoir une grosse autoroute bien bien large pour les données situées dans les data centers de Google, et tout le reste, ben, on serait obligé de transiter par des tout petits chemins. C'est-à-dire qu'en gros, ça deviendrait carrément plus compliqué d'avoir accès à ces données, et surtout très très lent, parce que ben, y aurait un tout petit bout qui serait laissé pour tout le reste des données qui ne seraient pas Google, quoi, en gros. C'est ça qui pourrait se passer avec ces câbles privés. Et du coup, ce serait une manière très très simple pour Google de contrôler ce qui circule en termes d'informations.
De valoriser ses propres informations, quoi.
Ouais. Valoriser et empêcher d'une manière l'accès à d'autres informations.
Ok. Il y a d'autres questions qui se posent avec cette question de la matérialité dans le secteur du numérique. Comme on vient de le voir, le secteur du numérique, c'est un consommateur énorme de travailleurs et travailleuses précaires, en plus d'être un consommateur de matériaux et d'énergie, mais c'est également un producteur d'énormément de déchets. Le retraitement de déchets, c'est également lié au néocolonialisme, puisque les décharges numériques se trouvent par exemple au Ghana, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, et en Malaisie, en Asie du Sud-Est.
Et du coup, les smartphones et la miniaturisation, justement sur les smartphones, ils ont beaucoup de conséquences sur ces questions de recyclage. Les modèles de téléphone, ils sont de plus en plus complexes, de plus en plus compacts et de plus en plus légers, mais ça va aussi les rendre de plus en plus fragiles, en fait. On peut constater leur fragilité par rapport aux téléphones portables à touche, notamment l'écran qui se casse facilement. Ce sont des téléphones qui tiennent très peu les chocs. Bon, franchement, on le fait tomber une fois, je pense que c'est fini pour l'écran. Et la miniaturisation, elle a d'autres conséquences. Puisqu'elle rend la réparabilité beaucoup plus compliquée. En fait, il faut des outils spécifiques pour réparer des pièces aussi petites. Il y a vraiment des pièces sur les smartphones qui sont de l'ordre de 1 mm, voire des fois en dessous de 1 mm. Et donc, c'est des outils spécifiques. C'est aussi une complexité qui est plus grande. Du coup, c'est accessible à beaucoup moins de personnes. Et tout ça, ça rend au final la réparation trop chère, en général. Trop chère parce que c'est... Pas tout le monde qui peut le faire. C'est, enfin, faut avoir les machines, faut avoir les connaissances, etc. La miniaturisation, elle a aussi des conséquences sur le recyclage, parce que c'est tous ces petits minuscules composants, ils sont fabriqués à partir de l'assemblage de plusieurs minerais, de plusieurs matériaux, et ça rend compliqué ou trop cher en fait leur recyclage, parce qu'en fait, il faut des traitements spécifiques. Est très polluant pour arriver à les reséparer. Une fois que tu as une pièce de 1 mm, il y a 4 minerais à l'intérieur. Bah, du coup, pour extraire tout ça, à des moments, on se dit ouais, ça vaut pas le coup en fait. Mais on va développer la gestion coloniale des déchets numériques dans une autre émission. Ça nous fait plein d'émissions là.
En perspective.
Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à en dire.
En tout cas, un peu lié à cette question de la non-réparabilité des objets qui sont de plus en plus petits et donc de moins en moins réparables, il y a la question de l'obsolescence programmée. En fait, la quantité de déchets qui est liée d'une part à la fragilité et à la non-réparabilité des objets connectés et à leur non-recyclage, c'est de l'obsolescence programmée, mais il y a aussi l'obsolescence programmée qui est liée au logiciel. Souvent, le concept d'obsolescence programmée, il est utilisé pour désigner toutes les techniques qui visent à réduire la durée de vie des objets de manière à ce qu'ils soient jetés, puis rachetés dans une logique capitaliste de croissance continue et de surconsommation. Alors l'obsolescence programmée, elle va donc concerner aussi les logiciels. En fait, il y a plein d'ordinateurs qui fonctionnent encore très très bien d'un point de vue matériel, c'est-à-dire tous leurs composants fonctionnent bien, l'ordinateur il fonctionne bien, mais il n'est pas assez puissant pour faire tourner des logiciels actuellement. Alors par exemple, ou alors ils sont beaucoup trop lents par rapport au fonctionnement de notre société. Alors il y a par exemple, il y a un exemple qui est qu'il y a beaucoup d'ordinateurs qui fonctionnent actuellement avec Windows 10. Et il y a un organisme qui s'appelle Canalys qui explique qu'en 2025, il y a 240 millions de PC qui ne pourront plus être utilisés parce qu'ils ne pourront pas pouvoir être installés avec la nouvelle version de Windows, qui ne pourront pas utiliser Windows 11, qui ne sont pas assez puissants pour Windows 11. Alors 240 millions de PC, ça équivaudrait à 37 millions de tonnes de CO2. Ou encore, ça équivaudrait à laisser allumer en permanence pendant un an 5,5 millions de radiateurs électriques de 1000 watts.
Waouh, on peut avoir chaud là.
Ouais, ou ça correspond en fait à 10% des émissions annuelles de gaz à effet de serre en France. Et ça, c'est une mise à jour de Windows. La nouvelle version de Windows, c'est ça les conséquences.
Bon ben... Vive Linux. Hein.
Voilà, on peut installer des ordinateurs avec des systèmes beaucoup plus légers que Windows, mais c'est aussi un truc général de chercher toujours plus de rapidité, chercher beaucoup d'effets. Puis en fait, même le fonctionnement d'Internet est de plus en plus lourd et nécessite... Tout ne demande plus de vitesse et donc ça génère plein d'objets jetés parce qu'ils sont juste plus fonctionnels au niveau numérique.
Et c'est aussi une réalité pour les smartphones. En fait, les constructeurs de smartphones, ils décident de ne plus mettre à jour, alors soit Android, soit iOS, sur des modèles anciens. Alors, par exemple, Samsung, il arrête de mettre à jour actuellement des smartphones et des tablettes qui ont été produites en 2020, c'est-à-dire il y a 4 ans. Ou Google a décidé de ne plus faire fonctionner l'application Google Play sur les smartphones vieux de plus de 10 ans. Ou Apple a dernièrement indiqué que ces modèles seraient mis à jour pendant 5 ans et puis après poubelle. Et en fait, voilà, on a des smartphones qui, au bout de 4 à 5 ans, sont devenus obsolètes, juste pour forcer en fait, les gens à en acheter de nouveaux, parce qu'en fait, c'est des smartphones qui sont complètement fonctionnels. Pour le coup, ils ne sont même pas, en 4 ans, ils ne sont pas du tout trop lents ou trop vieux, en fait. Ils sont trop vieux du système. Enfin, du coup, comme il n'y a plus de mise à jour de leur système, ça fait qu'ils ne peuvent plus avoir accès à des applications. Il y a des applications qui ne peuvent plus être utilisées, plus être téléchargées. Donc, on peut continuer à téléphoner avec. Mais on ne peut plus faire...
Tout un tas de trucs.
Tout un tas d'applications, elles ne vont plus s'installer. Du coup, c'est ça, on a des smartphones qui sont complètement fonctionnels au niveau matériel, Mais du coup, le système d'exploitation, il est trop vieux, en fait.
Donc, poubelle.
Poubelle. Poubelle, il y en a des tonnes à la déchetterie, des comme ça.
Et on ne peut pas les recycler parce qu'en fait, ils sont trop petits. Leur système, il est trop miniaturisé. Et même qu'on les réparerait, on ne peut pas les faire fonctionner avec des logiciels dessus.
Et voilà. La boucle est bouclée. Quelle catastrophe.
Voilà. Donc, quand on nous parle de dématérialisation, ce n'est pas vrai.
Non.
Parce qu'en fait, il n'y a rien qui n'est pas matériel en soi. Tout est matériel. On arrive à la fin de cette émission et on espère qu'on vous a largement convaincu, si vous ne l'étiez pas déjà, sur la vaste supercherie de la dématérialisation. En fait, la dématérialisation, ça sert surtout au contrôle et à la surveillance grâce à la collecte de nos données, et ce qui sera le sujet complet d'une émission complète.
Encore une. Et effectivement, les administrations, elles ont ainsi mis en place des techniques de surveillance permettant de contrôler les personnes les plus à risque de fraude, en gros. Il y a plusieurs cas qui sont connus, mais c'est vraiment une des grosses... ce qu'a permis la dématérialisation, c'est surtout ça, en fait. Surtout cette surveillance, par exemple, à la CAF. Du coup, l'existence du compte Internet, puis le remplissage quasi obligatoire par Internet de la déclaration trimestrielle, ça a permis à la caisse d'allocation familiale de contrôler les adresses IP, les fameuses adresses dont on a parlé tout à l'heure. Du coup, elle contrôle nos adresses IP de connexion sur son site et elle contrôle dans ces adresses IP, est-ce qu'on se connecte de France ou de l'étranger. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, si on séjourne plus de 3 mois à l'étranger, on n'a plus le droit de toucher les aides sociales. Du coup, c'est une manière de contrôler les personnes qui se connectent sur le site de la CAF trop souvent depuis l'étranger. Et si c'est le cas, ça bip et ça fait qu'il y a un contrôle beaucoup plus dur, quoi, des contrôles domicile ou des convocations à la CAF.
Surtout qu'il y a des articles sur Internet qui racontent comment les systèmes de mise en place des contrôles, ils fonctionnent selon des algorithmes tout aussi qui sont carrément dégueulasses.
Tout à fait. Et pareil pour France Travail. Alors à l'époque, c'était Pôle emploi parce que ça date de 2021, cette histoire, mais une personne a été radiée au motif que l'envoi de ses candidatures par courrier recommandé plutôt que par Internet, ne permettait pas de constater le caractère, lettre de Pôle emploi, le caractère sérieux des démarches entreprises pour retrouver un emploi. C'est-à-dire que, en fait, si tu passes pas par leur site, par ton compte Pôle emploi, ton compte France Travail, que tu ne montres pas via cette plateforme que tu es en train de chercher des emplois, tout le reste, en fait, ça vaut plus rien.
Alors que c'était par courrier recommandé.
Ouais, c'est ça. Mais ça leur permet pas de te contrôler assez. En fait, ils ont pas su à quelle heure, pendant combien de temps tu t'es connecté à ton compte France Travail. Du coup, ça leur plaît pas. Du coup, ils veulent mettre tout le monde au pas sur un truc de contrôle de « Ok, ton compte France Travail, ils savent exactement combien de temps tu as passé, à combien tu as ouvert d'offres d'emploi, à combien tu en as répondu, etc. »
Alors des fois on se dit bon mais un smartphone c'est bon, j'en ai un d'occasion, j'en ai un tout pourri et tout, mais pour celles et ceux qui pensent qu'une alternative est possible en prenant des vieux smartphones, des smartphones d'occasion, en achetant des Fairphone qui sont des téléphones reconditionnés, on voulait rappeler que
les conséquences du smartphone ne sont pas seulement dans sa production. Le smartphone, il est aussi problématique dans son usage. Par exemple, la consommation énergétique est pire dans son usage que dans sa production, alors que c'était déjà pas bien reluisant dans la production. Et donc, les Fairphone, qui sont Fairphone, c'est des téléphones qui sont fabriqués avec une espèce d'éthique dans sa production, on va dire. Bon, faut aller chercher un peu, mais en tout cas, il y a un peu une envie de faire un peu mieux que tous les autres. Et donc, ce n'est pas des solutions, ni les smartphones reconditionnés. C'est du moins pire, en fait. On peut dire que c'est du moins pire. Mais en vrai, par rapport à l'étendue du désastre, c'est vraiment un petit pansement sur une énorme plaie béante, quoi, sur une hémorragie, on va dire. Et par exemple, l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, elle avance que 3/4 des impacts du smartphone sont liés à sa fabrication. Ça, c'est pour promouvoir l'achat des smartphones reconditionnés. Mais en vrai, c'est sans prendre en compte du tout, mais alors du tout, son usage et ce que génère l'utilisation d'Internet.
Alors maintenant, pour vous dire au revoir, on écoute un extrait d'un débat sur faut-il boycotter les smartphones ? Et du coup, c'est, à ce moment-là, c'est Jeanne Guyen qui parle, qui est une chercheuse sur l'histoire de la société de consommation.
Et on vous dit au revoir, du coup, on vous laisse sur cet extrait. Du coup, salut.
Et bonne soirée sur Radio Campus Grenoble et à bientôt.
Alors moi, je vous pose la question du coup du débat, question à 1 million. Compte tenu de la division internationale du travail que ça suppose, des 55 métaux qu'il faut extraire pour faire un smartphone, enfin de toute cette intensité matérielle, de toute cette intensité humaine qu'il faut, en gros, est-ce que le smartphone ou un smartphone, même un smartphone éthique, écolo, peu importe, a sa place dans une société respectueuse des équilibres écologiques, une société qui ne repose pas sur l'exploitation de l'homme par l'homme, etc.
C'est difficile de répondre justement parce que comme c'est un objet d'usage numérique et de communication, en fait, même si on essaye du point de vue matériel et du point de vue du travail de régler un certain nombre de problèmes, et il y a des entreprises qui le font, par exemple Fairphone, en fait, on ne réglera pas les autres problèmes qui sont liés aux usages. Donc il n'y a pas que la fabrication et la production de cette technologie qui est une technologie qu'on pourrait dire, elle est vivante, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'une fois qu'on l'achète, après, il y a de plus en plus d'usages qui se greffent dessus et ces usages eux-mêmes sont polluants. Contrairement au fait que si j'achète, je sais pas moi, si j'achète de la nourriture, bon, il y a des problèmes liés à sa production, à sa distribution, mais une fois que je l'aurai mangé, bon, bah voilà, il n'y a plus d'impact, on va dire. Plus pour longtemps, en tout cas. Et au contraire, le smartphone, il y a de plus en plus d'impact au fil de sa consommation, et c'est cette consommation qui nous rend dépendants. Donc même si, par je ne sais quel miracle technique, un smartphone était produit dans de bonnes conditions et était peu polluant, il nous confondrait toujours au même problème de surutilisation de ressources en électricité, de surproduction de données, etc. Parce que, tout simplement, une fois qu'on a acheté cet objet, bah son histoire commence à peine, en fait. Même s'il a déjà une très longue histoire derrière, il va créer de plus en plus et de plus en plus d'usages. C'est pour ça que la meilleure manière de ne pas en avoir, c'est de ne pas commencer. C'est comme une drogue, c'est-à-dire que si vous commencez à utiliser un smartphone, vous allez en avoir de plus en plus besoin. Et c'est là aussi qu'il y aura des impacts numériques.
Thank you.
Alors, vous venez d'écouter donc le dernier volet de cette série super intéressante sur le coût des smartphones. C'est une série qui a été réalisée par des camarades de Radio Campus Grenoble. Vous pouvez retrouver les 3 épisodes sur le site de Radio Campus Grenoble. Et on retrouvera ce sujet dans Libre Débat, parce qu'il y a eu un festival qui parlait justement des data centers, de tous ces chemins de câbles qui sont sous nos pieds, alors qu'on imagine que c'est très immatériel tout ça. Et donc on a pris pas mal de sons à ce festival, et on va essayer de réunir tout ça pour faire une émission sur Libre Débat. Alors en tout cas, ben, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve normalement la semaine prochaine avec l'équipe de Voral sur les archives orales LGBT. Et puis pour aujourd'hui, restez à l'écoute de Radio Galère. C'est bientôt l'heure de 1 heure en Palestine.